L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur le podcast. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans ce contexte que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à Élodie Dénéchaud, directrice du PIMS Médiation de Sevran et Noisy-le-Grand. Bonjour Élodie.
Bonjour Florian.
Alors les PIMS Médiation accueillent, informent et accompagnent les usagers dans leurs démarches administratives du quotidien. Ils jouent un rôle de relais entre les services publics et les habitants, avec une attention particulière portée aux plus éloignés du numérique ou du langage administratif. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un PIMS Médiation et à quoi ça sert concrètement ?
Alors les PIMS Médiation sont une franchise sociale qui fête ses 30 ans cette année. Donc les PIMS Médiation ont été créés à Lyon à la suite des émeutes qu'il y a pu y avoir là-bas et se sont mis autour de la même table les grandes entreprises de services publics telles que Veolia, La Poste, EDF, etc., etc., ainsi que les collectivités et l'État. Et ils se sont dit, afin de pouvoir rétablir un climat plus serein au sein des quartiers, il faudrait remettre de l'humain dans la machine. Ils ont donc décidé de créer sous la forme associative le premier PIMS Médiation, donc il y a 30 ans à Lyon. Aujourd'hui, les PIMS Médiation, c'est surtout quatre missions principales que l'on va retrouver dans presque tous les PIMS. La première va être en lien avec l'accès et le maintien des droits. Une partie des PIMS Médiation sont labellisées France Service, c'est-à-dire qu'ils vont être en capacité d'accompagner les personnes dans la réalisation des démarches des 12 opérateurs qui font partie de France Service, mais pas que. Si on s'arrête à l'offre France Service, on ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de la population sur un territoire. C'est pour ça que chaque association PIMS Médiation va développer un catalogue de services, c'est-à-dire la liste de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas, afin de répondre aux besoins les plus fins des habitants sur un territoire. Donc en Seine-Saint-Denis, par exemple, on est en capacité d'accompagner les habitants sur les démarches de premier niveau en matière de, par exemple, démarches étrangères ou bien l'accès aux droits en santé. Donc ça, c'est un premier point. Parallèlement à ça, une partie des PIMS Médiation, et notamment ceux de Seine-Saint-Denis, sont labellisés point conseil budget. Ce qui signifie qu'on est en capacité d'accompagner les personnes qui sont ou en risque ou en situation de fragilité budgétaire, malendettement, surendettement, etc., etc. Ce qui va être intéressant, c'est comment on va croiser ces missions d'accompagnement budgétaire avec la question aussi de l'accès aux droits qui sont généralement très, très liées. Ces missions-là, on va être en capacité de les faire au sein de nos sites, donc c'est-à-dire sur les locaux que nous occupons, mais aussi hors les murs. C'est-à-dire qu'on peut aller réaliser des permanences dans des centres sociaux, dans des tiers-lieux, en mairie, parfois même avec des moyens mobiles, comme un camion. L'idée, c'est de pouvoir aller au plus près des personnes pour pouvoir les accompagner sur leur démarche administrative. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur lequel interviennent les PIMS Médiation, ça va être l'inclusion numérique, qui finalement découle particulièrement du premier. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas en capacité de vous débrouiller à minima avec l'outil numérique, vous risquez la rupture de droit. Donc en fait, les PIMS Médiation se sont aussi surtout spécialisés sur l'accompagnement des très grands débutants. Qu'est-ce qu'un ordinateur ? Je découvre ce qu'est une souris, un navigateur, ce genre de choses. Donc on a développé toute une méthode d'accompagnement des publics les plus éloignés afin de leur permettre d'utiliser l'outil numérique, aussi bien le smartphone que l'ordinateur. Le troisième point sur lequel on intervient, c'est tout ce qui va être la lutte contre la précarité énergétique. Au sein des PIMS Médiation, nous avons notamment donc les grandes entreprises de services publics et notamment les énergéticiens qui vont former les médiateurs de façon à ce que l'on puisse sensibiliser les publics aux éco-gestes, à l'économie de fluide, comprendre les factures, etc., etc. Et enfin, notre dernière mission va être une mission de tremplin professionnel pour les médiateurs sociaux qui vont du coup au-devant des publics. Et l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de travailler aussi à aller vers un emploi qualifié et durable. Donc l'idée, c'est vraiment que toutes ces missions soient le plus transversales possible, que quand on travaille la question du budget, on va aussi parler d'inclusion numérique parce que c'est quand même mieux de maîtriser son application bancaire pour pouvoir suivre ses comptes. Mais aussi, quand on va avoir une problématique d'accès aux droits, on va peut-être pouvoir parler de précarité énergétique. L'idée, c'est vraiment d'être dans la transversalité la plus complète possible.
Et alors, dans quel écosystème cela s'insère-t-il ? Quels sont vos liens avec les institutions publiques ?
Extrêmement forte. L'idée, c'est qu'un PIMS médiation s'installe pour venir en complémentarité des autres acteurs d'un territoire. Ça veut dire qu'avant même qu'un PIMS médiation soit créé, il y a une étude de territoire qui est réalisée par les partenaires locaux, par le réseau national, de façon à déterminer les besoins non pourvus ou partiellement non couverts sur le territoire et de voir comment on peut y répondre du mieux possible. L'idée, c'est vraiment d'être dans la complémentarité et c'est aussi pour ça que les collectivités locales et les institutions partenaires sont dans les conseils d'administration des PIMS afin de pouvoir être au plus près du coup, de la gouvernance et de définir les stratégies les plus adaptées aux besoins du territoire.
Concernant la délégation France Service, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et puis nous parler peut-être un peu des bus France Service aussi ?
Oui, bien sûr. Alors France Service, ça a été créé à l'issue de la crise des Gilets jaunes. L'idée était de remettre de l'humain dans la machine dans un contexte où la dématérialisation est de plus en plus la norme et peut mettre en difficulté une partie des personnes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a 12 opérateurs France Service du coup, se mettent autour de la table pour du coup abonder dans un fonds qui permet qu'il y ait partout en France, à moins de 30 minutes de chaque Français, une maison France Service. Dans cette maison France Service, vous allez trouver deux agents qui sont formés par ces opérateurs pour vous accompagner sur la réalisation des démarches de premier niveau. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un coup de main pour demander l'APL, j'ai besoin d'un coup de main, je ne comprends pas ce qui se passe avec mes impôts, est-ce que vous pouvez m'aider à faire la déclaration trimestrielle de ressources ? J'ai une question par rapport à tel courrier, je ne suis pas sûre. L'idée, elle est là. Et pour aller plus loin dans cette dimension d'aller vers, l'État a proposé la création de Bus France Service. Alors, Bus France Service porte pas toujours très très bien son nom, ce ne sont pas forcément que des bus. Et en fait, il y en a très très peu qui sont de véritables bus. Souvent, ce sont des camions qui ont été aménagés et qui vont aller réaliser des permanences itinérantes sur le territoire pour aller au plus près des personnes, que ce soit dans le rural pour pallier l'absence d'endroits pour pouvoir accueillir les personnes et du coup en milieu urbain afin de permettre aux personnes qui ne se rendent pas dans les sites classiques de pouvoir quand même avoir accès aux droits.
Concernant les bus, est-ce qu'ils sont adaptés à des contextes urbains comme la Seine-Saint-Denis par exemple ?
Question piège. Je dirais oui et non, avec une position qui n'engage strictement que moi. Ni la ANCT, ni le programme France Service, ni la préfecture de Seine-Saint-Denis, ni le réseau national des PIMS médiation. Oui et non. Ils sont intéressants dans un objectif d'étude du besoin. L'avantage des bus, c'est leur mobilité. Je le vois par exemple sur le territoire de Villemomble où on a conçu le projet comme aller vérifier s'il y a un besoin sur un territoire, donc qui est le quartier de Benoni. Et le camion a permis de se dire, voilà, on va poser le camion sur la place, on va faire une communication. Pendant 2 ans, on y est allé et on a confirmé qu'il y avait un véritable besoin d'accompagnement à l'accès aux droits sur ce territoire. Et la ville nous a dit, OK, c'est très bien, du coup, on va vous installer dans une structure fixe qui permettra du coup d'accueillir les personnes de façon peut-être plus adéquate avec des sanitaires. Et puis s'il pleut, il neige, il vente, il fait trop chaud, on peut vous accueillir correctement. Donc là, dans ce cas-là, je trouve que le bus était particulièrement adapté dans le territoire sur lequel on était, ce qui l'a permis de confirmer un besoin. Et il y a des territoires sur lesquels ça a infirmé le besoin. Ce n'est pas à cet endroit-là qu'il y a besoin de quelqu'un. Il n'y avait pas assez de passages. Voilà, ce genre de choses. De cette façon-là, c'est intéressant. Le camion, il est également intéressant comme un outil de communication. Il est très visible. Ça vous permet de savoir qu'à cet endroit, vous pouvez trouver de l'aide pour vous accompagner dans vos démarches, l'accès aux droits. À côté de ça, ce que l'on constate, c'est que dans les territoires très urbains, comme celui de la Seine-Saint-Denis, on n'est pas en manque de locaux pour accueillir des permanences. contrairement au milieu rural où du coup les bus viennent pallier cette absence de local repéré, identifié par les habitants. Il y a toujours un local de bailleurs, un local associatif, une mairie, un centre social qui est prêt à vous accueillir, qui a un lieu qui est déjà identifié par les habitants, dans lesquels on peut venir s'inscrire en complémentarité d'une offre existante. Et c'est en ça que je trouve que les bus France Service en Seine-Saint-Denis ne sont pas forcément les plus pertinents.
Quelles sont les limites et les atouts de ces dispositifs dans l'accompagnement des publics ?
L'atout indéniable, c'est que vous pouvez être accueilli très très rapidement au sein d'une maison France Service, qu'il y en a forcément une à côté de chez vous, et que même si vous ne savez pas du coup vers qui vous tournez, vous savez que la maison France Service pourra ou bien répondre à votre question, ou bien vous orienter vers le partenaire le plus adapté. L'idée, c'est quand même aussi que les maisons France Service soient informées et connaissent bien les acteurs du territoire afin de vous orienter correctement et éviter ce fameux effet ping-pong quand on vous renvoie d'une administration à une autre. Donc ça, c'est un atout indéniable. Vous avez une institution, le France Service, qui pourra vous apporter cette réponse de premier niveau. Les limites sont assez simples à deviner. C'est lorsque vous avez deux agents qui doivent être sachants sur les démarches et fonctionnements de 12 opérateurs différents. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Ça demande une gymnastique très particulière pour les agents. Il y a des enjeux de formation continue qui prennent aussi énormément de temps. Et nous, tout l'enjeu pour nous, c'est de réussir à maintenir la qualité de service, mais aussi de rester au fait de la mutabilité de tous ces droits. Et avec 12 opérateurs, du coup, c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu là-dessus.
À Sevran et Noisy-le-Grand, le PIM s'accompagne des personnes souvent éloignées du droit commun. Précarité numérique, barrière de la langue, isolement. Le non-recours au droit est une réalité forte, parfois partielle, parfois totale. Qui sont les personnes que vous accompagnez le plus souvent ?
Eh bien, curieusement, nous accompagnons tout le monde, sauf les jeunes. Effectivement, le public de moins de 25 ans, c'est le public que l'on touche le moins, pour plein de raisons. Et en fait, finalement, on se rend compte que le public, on commence à l'avoir à partir de 25 ans et l'inscription au RSA. À partir de là, on a un public qui va de 25 à 90 ans, avec, sur certains sites, beaucoup plus de seniors. Ça va être en lien avec les territoires d'implantation. Là où on est le plus généraliste, on va avoir énormément d'actifs. On se rend compte que notre cible, les personnes qui viennent à nous sont plutôt des actifs, qui sont à un moment donné en difficulté avec la dématérialisation ou bien qui ont déjà eu de mauvaises expériences avec l'institution et qui ont peur de faire une erreur.
Quelles sont les demandes qui reviennent le plus dans vos permanences ?
Les démarches pour lesquelles il y a de moins en moins d'opérateurs, d'êtres humains dans les institutions pour y répondre. Typiquement, si vous essayez de faire des démarches en lien avec le droit des étrangers, aujourd'hui tout passe par un site internet qui est la NEF. Il y a très peu de personnes, ou en tout cas pas suffisamment, pour répondre aux besoins d'accompagnement sur les démarches de la NEF. Donc les demandes qui reviennent le plus souvent vers nous vont être celles qui n'ont pas trouvé de réponse directement dans les bureaux des organismes mêmes. C'est-à-dire qu'il y a certains opérateurs qui ont décidé de renforcer leurs effectifs sur les réponses complexes ou bien qui ont renforcé leur back-office face aux demandes importantes, peut-être au détriment de l'accueil physique des personnes. Et c'est là où on va avoir finalement le plus de demandes. Ce qui concrètement va représenter toutes les démarches en lien avec la NEF, qui est le site qui regroupe toutes les démarches étrangers en France. On va aussi avoir ces questions-là sur tout ce qui va être demande retraite, où effectivement il y a de moins en moins d'agences CNAV ou CARSAT sur le territoire. Donc c'est vraiment ces demandes-là que l'on va avoir. Moins une institution est visible, plus la personne va venir chez nous afin de pouvoir trouver des réponses.
Est-ce que vous avez le temps d'aborder la situation globale de la personne quand vous la recevez, ou est-ce que vous pouvez simplement traiter la demande initiale ?
Alors, tout va dépendre et de la personne et du site sur lequel on est. Effectivement, si quelqu'un vient juste parce qu'elle a besoin d'une attestation CAF, on ne va pas forcément lui proposer quelque chose de plus global. En revanche, selon les partenariats que l'on peut avoir, et notamment par exemple le partenariat avec l'ARS, on va systématiquement proposer un balayage des droits en lien avec la santé. Mais aussi, pour les personnes qui le souhaitent, on peut réaliser ce qu'on appelle un balayage des droits 360, c'est-à-dire qu'on va étudier sa situation et son éligibilité aux 20-25 droits premiers que l'on peut avoir sur la question du logement, de la CAF, du chèque énergie, etc., etc. L'idée, c'est de pouvoir lutter contre le non-recours partiel aux droits.
Et justement, comment il se manifeste ce non-recours aux droits dans le quotidien ?
On va le constater très généralement sur notre mission de point conseil budget, où on va recevoir des personnes qui ont, par exemple, de grandes factures d'hospitalisation, alors que s'ils avaient pu avoir la complémentaire santé solidaire ou une mutuelle, par exemple, n'auraient pas eu ces droits, ces soins à payer. On peut aussi le constater dans les situations, toujours dans le point conseil budget, on se rend compte que les personnes, par exemple, n'ont pas fait valoir leur droit à la prime d'activité, alors qu'il pourrait y avoir droit et que ça viendrait du coup peut-être mettre un peu du beurre dans les épinards dans un budget un petit peu compliqué et du coup éviter des situations d'endettement. Donc en fait, on se rend compte que le non-recours au droit va avoir un impact direct dans la gestion budgétaire des personnes, mais aussi dans leur accès au droit, aux soins. Et voilà.
Alors à Sevran, les médiateurs posent trois questions clés sur la couverture santé, le médecin traitant et l'accès au numérique. Ce repérage systématique permet d'anticiper les ruptures de droits et de prévenir des situations de non-recours. En 2023, plus 20% des ouvertures de droits ont été constatées grâce à cette méthode. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce balayage systématique des droits en santé ?
Oui. Alors l'idée, c'est qu'on se rend compte qu'en Seine-Saint-Denis, la question de l'accès aux droits en santé est prégnante. Il y a de vraies difficultés pour les Séquano-Dionysiens d'accéder à des soins. Et on a réfléchi à nous ce que l'on pouvait faire afin d'apporter notre pierre à l'édifice. L'un des premiers freins, du coup, c'est d'avoir des droits à la santé ouverts, c'est-à-dire une mutuelle, la complémentaire santé solidaire, donc qui est le nom maintenant de la CMU, pour pouvoir se repérer, ou l'aide médicale d'État, par exemple. Ce que l'on propose à toutes les personnes qui viennent nous voir sur n'importe quel point de contact du coup du PIMS Médiation Sevran, c'est de poser trois questions qui vont nous permettre de rapidement savoir si la personne a bien tous les droits ouverts et si toutes les conditions sont réunies pour elle pour pouvoir accéder aux soins.
Et alors, quelles sont les trois questions posées systématiquement et puis pourquoi ces questions ?
Alors, la toute première question que l'on va poser, c'est est-ce que vous avez une complémentaire santé ? Que ce soit une mutuelle, une complémentaire santé solidaire ou l'AME. Selon la réponse de la personne, on va aussi lui demander quand est-ce que les droits expirent. Parce qu'on se rend compte que l'un des enjeux, c'est aussi le renouvellement du droit. Les complémentaires santé solidaire et l'AME sont des droits qui sont ouverts pour un an et qui doivent être renouvelés. Beaucoup de personnes vont oublier de les renouveler. Donc dans la foulée, on leur demande à quelle date et s'ils ont besoin d'aide pour le faire. La deuxième question, c'est avez-vous un médecin traitant ? Notamment parce que le médecin traitant, aujourd'hui, pilote la prise en charge, les soins d'une personne. Si vous n'avez pas de médecin traitant, votre consultation, elle ne sera pas remboursée de la même façon. Si vous allez chez des médecins spécialistes sans orientation de votre médecin traitant, vous n'allez pas être remboursé de la même façon. Et tout ça, ce sont des freins à la consultation de spécialistes. Si les personnes nous disent qu'elles n'ont pas de médecin traitant, on peut les orienter vers le centre municipal de santé de Sevran avec lequel on a noué un partenariat qui nous permet de les réorienter là-bas et de s'assurer que les personnes, du coup, ont bien un médecin traitant qui va pouvoir les prendre en charge. Et enfin, la dernière question, c'est de savoir si les personnes sont en capacité de prendre des rendez-vous médicaux en ligne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la PHP a un marché avec Doctolib sur la prise de rendez-vous en ligne. Aussi, si vous êtes en difficulté pour utiliser Doctolib, Care ou n'importe quelle autre application de prise de rendez-vous médicale, vous allez être freiné dans votre prise de rendez-vous et ça peut être un frein supplémentaire pour les personnes. Donc l'idée de ces trois questions, c'était vraiment de balayer les freins principaux qui rentrent dans notre champ d'intervention et qui peuvent limiter l'accès aux soins.
Qu'est-ce que vous avez constaté concrètement sur l'impact de cette méthode ?
On a été très surpris la première année parce qu'on s'est rendu compte que 20% des personnes qui venaient à nous, donc nous qui sommes quand même une association spécialisée dans l'accès et le maintien des droits, n'avaient pas de droits ouverts en santé. C'est un chiffre qui est absolument énorme. Donc cette première année-là, on s'est rendu compte que 20% des personnes qui venaient à nous n'avaient pas de droit ouvert. Aujourd'hui, on est quand même sur les années 2 et 3, on se rend compte qu'on est à peu près sur 10%. Ce qui veut dire que la première année, on a absorbé le flux, on a ouvert les droits des personnes, mais qu'il y a toujours 10% des personnes qui viennent nous voir en Seine-Saint-Denis qui n'ont pas de droit ouvert. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui, pour lesquelles, si nous, on n'avait pas fait cette démarche d'aller vers elles et de leur dire « mais est-ce que vous avez des droits ouverts ?» n'auraient toujours pas accès au remboursement de leurs soins et se freineraient probablement dans le recours aux médecins.
Et en quoi cela permet aussi d'agir en prévention ?
Tout simplement, si vous avez vos droits ouverts en santé et que vous savez que vos soins vont être pris en charge, vous allez consulter beaucoup plus rapidement votre professionnel de santé. Et c'est ce qui permet aussi du coup, de prendre en charge les pathologies au plus tôt, plutôt qu'on soit dans une situation très précaire et très dégradée lorsque les personnes consultent enfin.
Alors les ateliers Doctolib, ils aident les usagers à comprendre le fonctionnement de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Il révèle aussi des freins liés à la mobilité, à la compréhension des parcours de soins et au vocabulaire médical. Comment ces ateliers sont-ils organisés concrètement ?
À l'issue des trois questions et du balayage des droits en santé, si la personne nous explique qu'elle n'arrive pas à prendre des rendez-vous en ligne et qu'elle souhaiterait la prendre, on va lui proposer de l'inscrire sur un atelier. Cet atelier, il est en comité très réduit, parce que du coup, c'est 3 à 4 personnes maximum à qui on va proposer pendant une heure d'apprendre à se servir de l'outil Doctolib avec leur propre smartphone lorsqu'ils en ont un.
Qu'apprend-on aux participants avant même d'utiliser l'application ?
Effectivement, avant même de savoir se servir de Doctolib, il faut savoir se servir de son smartphone. Et on se rend compte qu'on a quand même une population qui est parfois en difficulté avec l'usage de l'outil numérique. Donc on va parler mot de passe, on va parler identifiant, on va parler sécurité sur Internet, notamment parce que là, on va parler de données médicales. Donc on va être aussi dans le repérage des situations d'électronisme en amont, travailler sur l'usage du smartphone et ensuite, du coup, on va pouvoir aborder la question de la prise de rendez-vous médicaux en ligne.
Quels autres enjeux ces ateliers font-ils émerger en termes de mobilité, de confiance, de vocabulaire médical ?
Eh bien, on se rend compte que beaucoup de personnes que l'on accompagne ne connaissent pas le nom du spécialiste qu'ils vont chercher à rencontrer. Je mets au défi de savoir ce qu'est un stomatologue pour beaucoup de personnes, par exemple. Sauf que les soins dentaires sont quand même extrêmement importants, notamment dans la population précaire. Donc on va être déjà dans trouver le nom du type de spécialiste dont on a besoin, parce que c'est des mots qui ne sont pas simples, tout simplement. Donc on va travailler là-dessus. Et on va aussi travailler sur les mots compliqués que l'on repère dans Doctolib. Par exemple, on voit conventionné, non conventionné. Du coup, on va expliquer qu'est-ce que c'est. Et on va aborder la question aussi du remboursement des soins et de se dire il est peut-être préférable de chercher un professionnel qui est conventionné. Voilà pourquoi. On se rend compte aussi que ça fait émerger les questions de mobilité. On est avec un public qui a du mal parfois à sortir de sa ville pour pouvoir aller consulter. Et on se rend compte qu'une bonne partie de la population ne prend pas forcément le RER. Ils vont prendre le bus, mais pas forcément le RER. Alors qu'à Sevran, on est vraiment juste à côté. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut, parallèlement à la question de l'accès aux droits en santé, on peut aussi lever les freins à la mobilité et apprendre à se servir des transports pour pouvoir accéder finalement aux soins. Peut-être qu'à 2 stations de RER, vous allez pouvoir avoir un rendez-vous beaucoup plus rapidement avec un gynéco ou avec un dentiste, un pédodontiste, etc., etc. Donc finalement, beaucoup de questions sont levées autour de l'atelier Doctolib auquel on va répondre pour faciliter l'accès aux soins des personnes.
Alors le PIMS développe aussi des interventions spécifiques auprès des personnes âgées à domicile, des personnes détenues en amont de leur sortie ou encore de jeunes confrontés à une fracture numérique cachée. En quoi la médiation à domicile est-elle nécessaire auprès des seniors ?
Alors le projet de médiation sociale à domicile auprès des seniors, il a émergé après une discussion avec notre responsable de site qui, elle, a travaillé auprès des seniors tant en foyer logement ou bien dans des associations d'aide à domicile et moi-même sur ma pratique lorsque j'étais mandataire judiciaire, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de personnes seniors qui ne fréquentent pas les services classiques de droit commun en matière d'accès aux droits pour plein de raisons. déjà pour des raisons de mobilité, pour des raisons aussi de connaissance de l'offre d'aide, mais aussi des raisons de confiance, de crainte du coup de se faire arnaquer tout simplement. Aussi, on a proposé au département de la Seine-Saint-Denis et à la ville de Sevran de concevoir un service de médiation sociale à domicile. Ainsi, les personnes qui sont repérées, que ce soit par le service APA, l'intervenante sociale du commissariat, le CCAS, le département, etc., etc., ils repèrent des personnes qui sont à domicile avec une mobilité réduite, mais avec des difficultés d'accès aux droits. Ils leur demandent si on peut venir à domicile intervenir auprès d'eux. Et nous, du coup, nous venons à eux pour accompagner dans la démarche du droit sur lequel ils sont en difficulté, mais aussi, et là c'est fait systématiquement, faire un balayage global des droits de la personne afin de s'assurer qu'elle ait bien ouvert tous les droits justes auxquels elle peut prétendre.
Et concernant le milieu carcéral, quels sont les constats issus de vos actions ?
On se rend compte que ce sont des questions qui intéressent énormément les détenus. C'est-à-dire que nous, on va intervenir quelques semaines avant la sortie de la personne afin de l'informer de toutes les démarches qu'elle va devoir réaliser à la sortie afin de pouvoir s'insérer plus rapidement. Donc ça veut dire peut-être réouvrir des droits auprès de la Sécurité sociale, peut-être ouvrir les droits au RSA, faire une demande de logement, s'assurer que les impôts soient bien ouverts, etc. etc. Ce qui est assez intéressant dans cette démarche, c'est que on se rend compte qu'on crée une émulation auprès des détenus qui se rendent compte qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre devant eux, et notamment sur les matières, en matière de questions d'hébergement et de logement. On crée finalement, on suscite une envie à la sortie qui est un moteur assez intéressant dans la lutte contre la récidive.
Concernant les jeunes, comment se manifestent nos recours ? On a l'impression que pourtant ils sont assez à l'aise avec les outils numériques.
Ah oui, ils savent très bien se servir d'un ordinateur et de leur téléphone. WhatsApp, pas de problème. Minecraft, pas de problème. Lorsqu'on arrive par contre à l'usage du site de la CAF, du site des impôts, c'est pas la même limonade. Les difficultés des jeunes ne vont pas forcément se trouver dans l'utilisation même des outils, mais se retrouvent dans l'utilisation des plateformes numériques administratives, où entre le jargon administratif et tout ce qui va être demandé, le numéro fiscal à tel endroit, etc., etc., on a des jeunes qui sont paumés, parfois, dans l'usage du coup, de tous ces sites administratifs. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir les accompagner afin justement de limiter les ruptures de droits qu'ils pourraient avoir.
Alors les médiateurs sociaux, ils sont salariés puis formés en continu pour suivre l'évolution du droit. Le PIMS les accompagne dans la construction d'un portefeuille de compétences avec pour objectif un emploi durable et qualifié. Ils sont à la fois professionnels de l'écoute et acteurs dans leur propre insertion. Qui sont les médiateurs que vous recrutez et comment est-ce qu'ils sont formés ?
Les médiateurs que l'on recrute peuvent être à peu près tout le monde. Ce que nous, on recherche, c'est une envie et une posture. On va demander, quand on recrute, on ne demande pas à ce que les personnes connaissent quoi que ce soit de la médiation sociale, de l'accès au droit, ça on s'en occupe. Tout ce que l'on demande, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait une envie, une volonté et une posture de base qui soit adaptée face à l'autre. Pour le reste, on s'en occupe. Le Réseau National des PIMS Médiation est un organisme de formation certifié Calliope qui va proposer un parcours de formation pour ces médiateurs qui vont pouvoir acquérir les fondamentaux de la médiation sociale, les bases de la communication, les bases du travail en partenariat. On va aussi aborder tout ce qui va être en lien avec la norme de la médiation sociale, parce qu'il faut savoir que l'ensemble des PIMS médiation sont certifiés à la norme AFNOR de la médiation sociale, ce qui va garantir également un cadre professionnel certain. Et dans chaque PIMS, on organise également un parcours d'intégration, de montée en compétences qui est suivi. Et tout au long du coup de leur parcours au sein du PIMS, ils ont accès à tout un nombre de formations qui vont leur permettre de monter en compétences en tant que médiateur, mais aussi de leur permettre d'avancer sur leur projet professionnel.
Et comment vous les accompagnez dans leur propre parcours vers l'emploi durable ?
Eh bien, les médiateurs, du coup, sont invités à définir leur projet professionnel. Donc ça, ils peuvent le faire selon les PIMS avec le responsable d'activité ou le responsable de site, le responsable RH. Et à partir du projet professionnel qu'ils ont pu définir, on va pouvoir organiser des immersions professionnelles. Et là, c'est l'avantage d'avoir tout l'éventail de partenaires que l'on peut avoir au sein des PIMS. Et nos partenaires jouent le jeu. Donc, il y a énormément d'immersions qui vont être faites chez nos partenaires, que ce soit dans les services RH, que ce soit dans les services clientèle, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça va permettre de confronter le projet professionnel à une réalité. Mais aussi, du coup, on va les accompagner dans la rédaction des lettres de motivation, des CV, la préparation aux entretiens. On va aussi permettre aux salariés sur leur temps de travail d'aller sur les forums emploi. Là, il y a encore très peu de temps, j'ai un collègue qui est parti 2 jours en immersion à La Rochelle, parce que c'est son projet, pour aller travailler dans une association. Et ça, on l'a fait sans aucune difficulté. Et aussi de proposer tout ce qui va être possible en matière de formation pour que les personnes puissent renforcer leur bagage et postuler sur les offres qui leur plaisent. L'idée, c'est vraiment pas qu'ils partent sur des emplois alimentaires, mais qu'ils partent vraiment sur des emplois qui relèvent d'un vrai projet professionnel. On a aussi mis en place des formations telles que la prise de parole en public, par exemple, qui vont permettre aux médiateurs qui le souhaitent et qui en ressentent le besoin de pouvoir aussi renforcer leur capacité à prendre la parole et à oser, parce que du coup on se rend compte que c'est un frein que l'on rencontre beaucoup chez nos nouveaux médiateurs.
Alors est-ce que vous pouvez nous parler du projet Fable Lab avec les publics allophones? Qu'est-ce que vous avez cherché à comprendre?
On s'est rendu compte que, notamment en Seine-Saint-Denis, on a quand même énormément de personnes qui viennent à nous, qui sont allophones, donc dont le français n'est pas la langue maternelle, et qui se retrouvent en difficulté pour comprendre un peu ce qui se passe pour elles. Un ayant droit, ça ne veut pas dire grand-chose. S'actualiser, quand on y réfléchit en soi, ça n'a pas vraiment de sens. Du coup, avec le Fab Lab, qui est une association de médiation linguistique, on s'est posé la question de comment, à travers la langue, on peut rendre davantage acteurs les personnes qui viennent à nous, plutôt que de subir la médiation, où c'est quelqu'un qui va faire à leur place sans forcément comprendre tous les enjeux et comprendre tout ce qui se passe pour elles. Comment on peut faciliter la compréhension des mots-clés pour que la personne, elle puisse déjà être en capacité de comprendre ce qui se passe, de pouvoir réexpliquer ce qui a été fait pour elle. Et donc, pour ce faire, on a développé avec Fab Lab différentes méthodes, différents outils que l'on a concaténés, regroupés dans une formation d'une journée qui est destinée du coup aux personnes qui sont en première ligne avec les publics allophones et la question de l'accès au droit. C'est-à-dire que vous avez une personne devant vous, ça ne sert à rien de parler plus fort, elle ne comprendra pas mieux la langue, mais plutôt comment on va adapter notre posture, à quel moment on va proposer un outil, comment on va se servir des outils de traduction, comment on va faire s'il y a un interprète qui vient et comment s'assurer que l'interprète interprète correctement, comment on va faire aussi si la personne elle vient avec un enfant. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a régulièrement des questions et sur lesquelles on a essayé d'apporter des pistes de réponse pour les professionnels qui sont confrontés à ça au quotidien et faciliter du coup les médiations pour les personnes qui viennent à nous.
Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur les limites du système public d'accompagnement ?
Je dirais aujourd'hui que la plus grande limite, c'est la fragmentation du système. On est dans un système d'archipélisation, si je peux dire ça comme ça. On a des espèces de silos un petit peu partout, de personnes ou de structures qui peuvent accompagner dans des champs qui sont les leurs et qui vont pouvoir venir à un moment donné accompagner les personnes, mais qu'au niveau de leur propre champ et avec des interlocuteurs, des acteurs qui doivent eux-mêmes répondre dans un cahier des charges qui peut être contraint, etc., etc. Du coup, moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est l'impact de la coordination des acteurs sur les parcours des personnes. Comment, lorsqu'on a un système qui est aussi fragmenté, aussi archipélisé, et surtout très, très siloté, comment on peut favoriser la continuité et la fluidité des parcours ? C'est là où, aujourd'hui, je me pose le plus la question. Pour être peut-être un peu plus concrète, vous pouvez, je ne sais pas, vous êtes une personne qui se sépare avec un enfant, vous pouvez avoir la CAF qui va vous proposer un accompagnement parce que du coup, vous rentrez dans leurs critères en devenant une famille monoparentale. Mais peut-être que vous, votre premier réflexe, ça va être de vous déplacer dans un CCAS. Mais en fait, il n'y a pas forcément de travailleurs sociaux dans les CCAS et ça, on ne le sait pas. Et qui va vous renvoyer vers le département, chef de file de l'action sociale. Mais le département qui va vous dire « j'ai une file d'attente, etc. etc. » Allez au PIMS pour faire vos démarches d'accès aux droits. Mais le PIMS va vous dire « je ne suis pas un travailleur social, je peux juste vous aider avec vos démarches d'accès aux droits. » Et puis peut-être qu'il va falloir un petit coup de main pour faire la démarche de divorce. Donc on va vous dire d'aller à la maison du droit, qui va peut-être pouvoir vous aider. Et finalement, tout ça est très fragmenté et manque encore peut-être aujourd'hui de lisibilité. Et c'est là où du coup, on va créer des ruptures dans les parcours des personnes.
Alors, quels sont les défis à venir pour garantir l'effectivité des droits, notamment en santé ?
Alors là, j'ai une seule réponse. Aujourd'hui, on est dans un système où le droit, il est quérable. C'est-à-dire que si vous ne le demandez pas, vous ne l'avez pas. De plus, le droit, il est attribué pour une durée d'un an, généralement. Aujourd'hui, si on pouvait du coup passer sur du droit automatique avec un croisement des données, et c'est possible avec toute la data que l'on a aujourd'hui, si on pouvait sortir de cette logique de droit quérable pour aller sur un droit automatique, je pense qu'on pourrait bien plus assurer l'effectivité des droits de chacun.
Dernière question, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le modèle actuel pour aller plus loin dans l'accompagnement ?
Alors, je ne sais pas s'il faut aller plus loin dans l'accompagnement, parce qu'on a quand même une vraie expertise et une vraie richesse en France sur l'accompagnement. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait peut-être davantage structurer et piloter l'offre existante de façon à ce qu'il y ait davantage de transversalité entre chacun. Et vraiment, la question du pilotage me semble la plus importante aujourd'hui. Et pas forcément que dans l'action sociale, et bien de penser à la question de la transversalité. Des questions qui se posent aux personnes qui viennent vers nous.
J'ai dit que c'était ma dernière question auparavant, mais j'en ai encore une. Alors, un film, un livre, un podcast, est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire, un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
Je vais répondre un tout petit peu à côté, si c'est possible. J'ai beaucoup réfléchi à ça et en fait, finalement, je suis arrivée à complètement autre chose. Moi, ce que je recommanderais, c'est tous les lieux dans lesquels on peut se rencontrer et on peut échanger. Et le premier qui m'est venu, du coup, c'est la fête de l'UMA, où finalement, on va pouvoir se rencontrer pour écouter la même musique, pour écouter des choses qui sont très, très différentes. Et à côté, on peut assister à des conférences sur des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou peut-être écouter des personnes qui ont des points de vue complètement opposés aux nôtres. Mais en même temps, ça fait pas de mal des fois de se décentrer un peu de nos points de vue. Et c'est toujours un endroit où j'ai fait plein de rencontres, où il y a plein de choses qui ont émergé. Donc voilà, si vous me le permettez, je serai plutôt sur la fête de l'UMA et tous ces lieux dans lesquels on peut se rencontrer, échanger et continuer à refaire le monde.
Merci énormément pour ces réponses, Olivier Michaud.
Merci, Florent.